19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir, bonsoir, chers amis auditeurs. Partout en France, vous nous écoutez. Nous allons encore vivre quelques jours. Nous sommes ensemble encore jusqu'à vendredi prochain, dans quelques jours. Donc, c'est-à-dire que, ensuite, après, nous irons, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, vivre les vacances. Oui, clochette. On en a besoin. Oui, on en a besoin parce que c'est aussi ça, les vacances. Profiter, se retrouver en famille, changer d'air. Bref, allez. Ce soir, à celles et ceux qui sont encore au travail, je leur souhaite bon courage. Au menu, le Rassemblement National qui vote les dispositions de l'exécutif. Alors, certains sont étonnés. Eh bien, on va en parler. Nouvelle prime, vous savez, en pleine campagne présidentielle, c'était une somme, d'accord, par la CAF notamment, qui avait été engagée par le gouvernement. Alors, peut-on parler de hausse générale des minima sociaux face à cette inflation galopante, chers amis? On en parlera. On parlera aussi de la hausse des salaires. 60, un chiffre à vous communiquer. 65% des chefs d'entreprise des PME, figurez-vous, ont augmenté leurs employés depuis le début de l'année. C'est pas mal, hein? Ça va être une clochette, quand même. Ben oui, redit Kasi. Bien sûr. C'est un chiffre officiel. Pouvoir d'achat, prime, bref, on continue d'en parler, y compris vous aussi. Lorsque vous vous retrouvez avec votre panier, bref, quand je dis panier, faire les courses, notamment, certains nous ont dit qu'ils faisaient leurs courses avec 50 euros, aujourd'hui ils se retrouvent à 100 euros. Certains faisaient 100 euros, aujourd'hui 150 euros. Jusqu'où irons-nous? Bref, et puis peut-être, certainement, si nos débatteurs ont envie, j'ai envie de m'intéresser à Zemmour. Il a disparu du paysage politique. Alors, soit deux questions. Il s'efface, et c'est très bien, clochette. Ou alors, c'est le retour, un retour d'un grand mouvement populaire qu'il prépare pour la rentrée. Et écoutez, nous allons comprendre l'effet, enfin bref, le cas d'Éric Zemmour. 19h02, 19h30, nous, on va retrouver, comme chaque mercredi, dans le Quoi de Neuf, eh bien, le docteur Majid Seoussine et son billet d'humeur concernant la canicule. Ça tombe bien, il est docteur. Et puis, vous aussi, au 01 53 48 3000, vous nous appelez et puis vous passez à l'antenne, comme vous le faites si bien. Et je vous en remercie. Et c'est parti tout de suite en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est tout bronzé, il arrive avec un teint, ça y est, déjà en vacances, le Gamal Abina.
Toujours en vacances.
C'est vrai, vous êtes grave bronzé, Gamal.
Ouais, bah ça
vous passez votre vie, vos journées dans la plage ou quoi? Vous êtes
non,
à Deauville?
Paris, Paris-Plage.
Paris-Plage.
Il n'y en a pas d'ailleurs cette année.
Eh bien, bah, ah oui, il n'y a pas cette année, pourquoi?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, tiens.
Je ne sais pas si c'était programmé.
C'était pas programmé.
On l'a pas vu.
Bon, d'accord, c'est curieux.
C'est le cadeau de départ de Didier Lallemand.
Didier Lallemand, c'est ça, ouais. Vous savez que c'est l'ancien secrétaire d'État qui le remplace. Hein,
ouais, ouais.
Oui, voilà.
Bruno Nunez.
Bruno, monsieur Nunez. C'est pas, je
Laurent,
sais pas si c'est.
Laurent Nunez,
plutôt. Laurent Nunez, qui sera donc le futur préfet de la police.
À partir de jeudi.
À partir de jeudi, c'est ça. Voilà, exactement. Tout va bien, Gamal Abina?
Impeccable.
Bon.
Les vacances arrivent.
Bientôt pour vous?
Oui, enfin, je prends mon temps, septembre.
Ouais, septembre. Après.
Après, je repartirai, mais dans des conditions particulières.
Vous avez bien raison.
Mystérieux.
En clandestin.
En clandestin, clandestinement.
Mystérieux, mystérieux.
Redi Kasi, bonjour.
Bonjour.
Toujours costume cravate, hein?
Non.
Si.
Toujours.
Ah là, la socla, comme disent les jeunes.
Ouais, c'est vrai.
Ouf,
normal. Ça va, tout va bien?
Ça va, très bien.
Ça va, que je vous fais rire. Jamais.
Parfois, costume trois pièces.
Il les a fait. Ouais, c'est ça.
Oh,
ouais.
Quoi, jamais, rare.
Hier, vous étiez en costume aussi, hier? Avec la chaleur, les 42 degrés dans Paris?
Oui. Bon, c'est normal. Quand
c'est son maillot de bain, quoi.
C'est son maillot de bain, clochette.
C'est le meilleur moyen de cacher la transpiration aussi.
Ouais.
C'est une technique.
Une technique de quoi?
Rincer la transpiration.
Ouais, rincer, c'est le mec.
On n'y échappe pas.
Bon, allez, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi? Tiens, ça a surpris beaucoup de gens. Après plusieurs soirées mouvementées, au cours de laquelle les députés ont voté, vous savez, les trois premiers articles du projet de loi sur le pouvoir d'achat, eh bien, les débats continuent de se poursuivre et s'enchaînent de façon houleuse ou poids, parfois, vous savez, ça dépend effectivement les sujets. Le SMIC à 1500 euros, Bref, certains parlent d'un effet de communication. Et toujours est-il qu'on parle de revalorisation, on parle de primes, d'activité, de ce pouvoir d'achat. On parle de plein de choses, et notamment le RN, le Rassemblement National, qui vote les dispositions de l'exécutif. Étonnant ?
Pas du tout.
Pas du tout. Gabin Labina.
C'était attendu, hein, parce que Macron, dans son discours de 8 minutes, a expliqué à la nation qu'il avait gagné. Alors, c'est une demi-victoire, on dira. Et surtout, il a dit « Débrouillez-vous entre vous, il faut me donner les moyens de diriger ». Il a dit ça à son opposition, quelle qu'elle soit au demeurant. Comme la France Insoumise a décidé, de façon très claire, de ne rien voter en faveur de Macron, donc ils ont une posture dogmatique qui est dommage d'ailleurs, eh bien, il reste quoi ? Il reste la droite et l'extrême droite. Et l'extrême droite n'est pas bête, 89 députés quand même, eh bien, elle peut s'autoriser aujourd'hui à jouer l'arbitre. Et elle va jouer l'arbitre en faveur de Macron contre la droite, la gauche. Donc c'est une vraie stratégie.
Contre la gauche ou contre la NUPES ?
Contre la gauche. Ouais,
ce qui reste, à la NUPES,
c'est la gauche, NUPES. Tout ça, tout ce qui reste, quoi. Tout ce qui n'est pas à droite.
C'est stratégique, c'est quoi ?
C'est une stratégie de. Ils vont jouer un peu la carte de la 4ème République. C'est une déstabilisation programmée et en même temps montrer qu'ils ont un poids prépondérant à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le Front National. Ça rappelle par certains abords ce qui se passe en Israël avec la droite qui a besoin de l'extrême droite pour pouvoir diriger. On se retrouve dans la même configuration.
Pas mal, Gabin Labina, effectivement, un point de vue qui est intéressant. Mais bon, vous savez qu'Olivier Véran n'avait pas les moyens de. En tout cas, de l'empêcher, ça, il ne peut pas le faire. Non, il n'a pas le droit de le faire, de toute façon. Quoi. Je parle de Véran, puisque c'est le porte-parole. Véran, Rudy Kazi.
Ce serait d'autant plus ridicule, en fait, s'il cherchait à faire une espèce d'obstruction tout simplement au processus parlementaire. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas les moyens. Par contre, on sent qu'il y a une petite tentation politique à vouloir prendre un petit peu ses distances avec le Rassemblement National.
Oui.
Je rappelle que il n'a pas fait objectivement dans la soi-disant posture d'ouverture du président, ils n'ont pas fait objectivement un vrai appel du pied au Rassemblement National à la différence de ce qui a été fait par exemple pour les Républicains. Donc,
c'est pour ça que je dis ça. Ils ont passé leur temps à taper. Ils disent on fera sans vous, sans vous, sans vous, sans le RN, sans le RN.
C'est un peu ridicule. Mais de toute façon, le Rassemblement National est dans une posture de républication, on va dire. Voilà. Une volonté, en fait, de s'afficher comme un parti républicain. C'est vrai que. Un parti, en l'occurrence, c'est une association loi 1901. Donc. Sur le papier, c'est républicain. Maintenant, dans la posture que le Rassemblement National a été lorsqu'il était le Front National, est-ce qu'on peut dire qu'il est réellement dans le giron des idées républicaines, sachant qu'en réalité, ils avaient plutôt une volonté de sortir de l'idée même de ce qu'est la République, au départ de ce qu'était le Front National. Ils sont toujours dans cette posture-là et sachant que en plus, ils ont plus de sièges que la droite traditionnelle. Ça fait partie de leur agenda de prendre cette place-là au sein de l'Assemblée, en fait, de représenter entre guillemets la nouvelle droite. Donc ils jouent cette carte-là à fond. On a vu Sébastien Chenu tenir le perchoir lors d'une séance parce que ça fait partie des accords qu'ils ont pu obtenir pour présider quelques séances. Donc voilà, le parti est en train de se transformer, mais rappelez-vous le discours d'introduction du doyen. Absolument. De l'Assemblée nationale par rapport à l'Algérie, cette espèce de nostalgie nauséabonde qui nous rappelle les heures sombres de la colonisation et des guerres coloniales. Prise d'Alger 1918, si je me rappelle. 1830. Mmh. Voilà, donc plus d'un siècle de guerre entre les différents pays colonisés de l'époque. Entretenir la nostalgie, c'est pas aussi respecter la République en tant que telle dans laquelle se sont inscrits ces pays. Donc chasse le naturel et revient au galop. Demain, cette Assemblée nationale. Pour moi, il y a une recomposition du paysage politique du pays. Les enfants diraient ils l'ont pas fait exprès. Quoique, on se retrouve un petit peu dans les mêmes modalités que dans les années 80, mais en ce temps-là, Mitterrand avait mis la proportionnelle pour justement donner de la force à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il n'empêche que Macron a aussi joué là-dessus, en affaiblissant les partis. Et voilà, donc.
Mais ce que je veux comprendre, ce qui est intéressant, alors, vous savez, messieurs, ce qui est intéressant, messieurs, c'est pas notamment que le Front, le Rassemblement National, ait eu l'occasion de voter les dispositions. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que les députés et notamment Emmanuel Macron, qui ont passé leur temps à dire, de toute façon, on peut se passer du RN et de toute façon, on ne fera jamais rien sans que vous soyez associé à quoi que ce soit. C'est ça qui est surprenant, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quel est l'analyse stratégique du RN? Est-ce que c'est de, un moment d'arriver, de tacler les macronistes? C'est ça que je veux. Quelle est la grille de lecture qu'il faut avoir à terme? C'est ça qui est intéressant. C'est pas le vote en lui-même. C'est qu'est-ce qu'ils ont en tête?
C'est simple, c'est une variable d'ajustement, le Front National, qui est devenu très importante. Maintenant, il pèse dans la balance. C'est lui qui fera la loi. C'est le deuxième parti de France, il ne faut jamais l'oublier. C'est le deuxième parti de France parce que Marine Le Pen est arrivée à 42% à la présidentielle.
Oui.
Et surtout, ils ont 89 députés, c'est qu'ils battent, et largement.
Oui, oui, oui.
Je ne parle pas de la NUPES dans son entier, puisque c'est plusieurs, c'est un agrégat de partis. Ils battent la France insoumise.
On comptait debout la France,
tout ça. Absolument. Donc tout cela donne un front très puissant qui sait qu'il pèse dans la balance. Et surtout, il faut rappeler quand même une chose importante. Dans les années 80, ça vient d'être évoqué par Rudy, ou 90 même, sous Mitterrand ou sous Chirac, on ne recevait pas le leader du Front National. On ne négociait pas avec lui, on ne lui confiait rien. Aujourd'hui, Macron a reçu Mme Le Pen. Qu'est-ce qu'ils se sont racontés? On n'en a aucune idée. Mais elle est sortie avec le sourire. Ça veut dire qu'il y a des stratégies en place qui, évidemment, nous échappent. Et quand on dit que le Front National n'est pas un front républicain, eh bien, dans les faits, si. Dans les idées, non, puisque les idées sont des idées qui sont pétainistes, clairement. Quand l'autre nous fait sa sérénade sur l'Algérie coloniale, c'est pas seulement ça, c'est aussi...
On parlait du doyen ?
Oui, absolument, le doyen...
Le député doyen,
Gonzalez,
de l'Assemblée.
De l'Assemblée. Donc, il s'introduit,
Gonzalez,
on peut dire, directement sur du frontisme. C'est plus du rassemblement, c'est du Front National. Il fait un discours d'introduction qui est quand même très orienté et qui n'avait rien à faire à l'Assemblée, et il a été applaudi. Rappelons quand même que la moitié de l'Assemblée l'a applaudi. Donc c'est quand même inquiétant. Deuxième aspect important, c'est que on a un Front National qui pèse dans la balance, qui sait qu'il va peser de plus en plus dans un moment de crise important.
Voilà, c'est ça, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il va devenir, il va peser de plus en plus.
Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que dans les stratégies politiques, il n'y a pas de morale. On n'est pas dans le rapport à la morale. On est dans un rapport de calcul. Macron ne peut pas gouverner s'il n'a pas la droite et s'il n'a pas quelques voix de l'extrême droite. Il sait que la gauche, c'est foutu parce que, et malheureusement, je le déplore.
C'est foutu.
Ah, c'est foutu, la gauche.
Convaincu.
Ah, ben, c'est pas moi qui le dis. C'est le leader de la France Insoumise qui dit, nous ne voterons aucune loi. À partir du moment où on a une posture dogmatique et bête, pour moi, c'est bête, hein. Si Macron fait une bonne loi sociale, il doit pas ne pas la voter. On la vote.
Ben, c'est bête.
Ben oui, parce que là, il perd la possibilité.
Mais c'est vrai, c'est bête.
Ben oui,
c'est ridicule. La loi sur le pouvoir d'achat fait avancer justement le débat.
Donc il a fait une grosse faute. Mais le problème, c'est que c'est pas la première faute qu'il fait. Plusieurs fois, comme quand il dit pas une voix pour le Front National, mais il appelle pas à voter Macron, c'est une faute politique aussi. Parce que s'il avait fait ce geste-là, Macron l'aurait peut-être mieux vu. Ça aurait été plus à gauche. Donc aujourd'hui, on a un Front National qui se sait puissant. Et qui est puissant dans les faits, deuxième parti de France. On a un Front National qui est toujours frontiste, mais je dis front parce que je ne veux pas appeler un rassemblement. Des gens qui disent, il faut virer les étrangers, on fait des lois de séparation.
Mais c'est son nom.
C'est ce qu'il se donne comme nom. Mais ce n'est pas du rassemblement, c'est la division. Donc c'est un front républicain, effectivement, mais c'est un front. Et ce front, quand je dis républicain, qui s'inscrit dans la ligne politique républicaine, il ne faut jamais perdre de vue, tant qu'il n'est pas interdit, il est républicain. Même si quelques-uns de ses membres, très souvent, sont condamnés, il reste républicain. Le jour où il n'est plus républicain, c'est quand il remet en cause le fait que la République fonctionne avec le système de la Constitution et des élections. À ce moment-là, il perd cette légitimité. Mais on n'en est pas là aujourd'hui.
Rudy Cazy, vous vouliez rajouter quelque chose avant de retrouver la pub?
Écoutez,
la stratégie, la grille de lecture, hein, je parle.
Oui, la posture du Front National, c'est d'incarner l'opposition. Marine Le Pen l'a fait pendant 5 ans sans avoir autant de sièges qu'elle en a là. Et là, elle va forcément profiter de l'occasion pour continuer d'exercer cette pression sur le gouvernement. Et elle est clairement stratégique. Je le disais tout à l'heure, c'est l'acte 2 de la dédiabolisation qui était portée par Marine Le Pen pendant toute cette période où il y a eu le changement de nom. Et à partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale pour un rayonnement national. Donc, tantôt, ils vont être dans l'opposition vis-à-vis d'Emmanuel Macron lorsque ce sera intéressant pour eux de se démarquer de la ligne de la majorité. Tantôt, ils le seront vis-à-vis de la NUPES pour se démarquer aussi de l'extrême gauche pour pas qu'on dise que... comme souvent, ils ont eu des idées convergentes sur certains points, notamment sur le pouvoir d'achat, sur une vision un peu populaire, voire populiste de la France. Donc, ils vont avoir cette volonté de se démarquer de temps en temps. Donc, ils vont être un peu Ouais, c'est un peu triste à dire, mais ils vont être un peu le juge de paix à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont être la courroie d'ajustement jusqu'en 2027. Et l'objectif, justement, ça va être de totalement aspirer la droite. La droite qui est moribonde et celle qui se rapproche le plus de ses idées et là dont on pense aussi qu'il y a une partie de cette droite un peu plus centriste qui va se faire aspirer par le macronisme. En tout cas, eux, c'est le calcul qu'ils font. Ils veulent faire exploser la droite. Et c'est là qu'il y a une concomitance avec le projet d'Emmanuel Macron qui, pendant 5 ans, a consisté à lessiver les partis traditionalistes. Bah, en fait, le Rassemblement National emboîte le pas. Et ils vont continuer à aller dans ce sens-là.
Allez.
Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais...
On se retrouve tout de suite après la première page pub, justement. Avec vous, Gamal Abina, avec vous, Rudy Kazi, avec vous, 01 53 48 3000, on vous attend, on va parler des hausses des salaires, parce que figurez-vous, 65% des chefs d'entreprise de PME ont augmenté leurs employés depuis le début de l'année. Est-ce le cas pour vous? Vous nous appelez 01 53 48 3000. Est-ce que c'est une réalité? J'aimerais savoir, effectivement. Près des 2/3 quand même des chefs d'entreprise ont augmenté leurs salaires. Mais on le sait pourquoi. Je vous dis ça juste après la pub.
Les informés revient dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h18, j'ai inversé le truc. Alors la hausse des salaires, vous savez pourquoi les 65% des chefs d'entreprise, des PME ont augmenté leurs employés? Parce que justement il y a une crainte, il y a l'inflation d'ailleurs qui est galopante, il y a quelques difficultés à recruter. Parce que, évidemment, il y a un turnover important. Donc, du coup, les employeurs, eh ben, ils sont un peu en plein questionnement. Donc, ils se disent, ils préfèrent augmenter les salaires plutôt que se dire, voilà, laisser fuir leurs salariés. 40% l'ont fait à l'ensemble des salariés. Messieurs, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que aussi, vous êtes des chefs d'entreprise. 65% des chefs d'entreprise, ça vous paraît beaucoup?
J'y crois pas du tout.
Vous y croyez pas?
Mais pas une seule.
D'accord.
Ça, c'est un chiffre qui est donné. Je ne sais même pas si c'est un chiffre de listé.
Ça a été publié, là.
C'est déclaratif. Donc, c'est pas une
statistique. Attendez, on est le combien? Quelle date?
Oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est aujourd'hui, je suis d'accord. Mais
aujourd'hui.
Je crois pas, c'est grossier parce qu'en période de crise, c'est pas la première chose qu'on fait. On n'augmente pas les salaires. On a tendance plutôt à dégraisser un peu l'entreprise et à avoir moins de salariés. On fait attention. Il y a une inflation galopante sur tous les produits, je pense, avec le bâtiment. Le bâtiment est soutenu à fond par le gouvernement à tout un tas de dispositifs d'aide et de soutien et de financement quasiment à 100% de certains chantiers. Ils ont une TVA à 10% dans le bâtiment.
Donc c'est inventé ça, des primes, un intéressement, une participation plutôt que l'augmentation
des primes,
salariale,
si, des primes,
des coups de pouce.
Des primes, ça n'est pas l'augmentation de salaire.
Oui, oui.
Des
oui.
Primes, c'est une amélioration de l'ordinaire. L'augmentation de salaire, c'est factuellement, c'est quoi? C'est de dire qu'on est payé tel prix.
Alors c'est 65%, je rêve pas. Ils disent augmenter ces gens,
mais ça, c'est
augmenter nos employés pour ne pas les voir fuir,
ça,
partir.
C'est l'origine de ce chiffre.
Mais ces chiffres-là, c'est des chiffres. On a l'impression de voir une sorte de méthode couée pour dire que ça va pas aussi mal que ça. C'est pas vrai. Les chefs d'entreprise sont inquiets comme tous les autres. Moi, je travaille 3 sociétés différentes avec lesquelles je discute. Une dans le bâtiment, par exemple, où ils savent qu'ils vont avoir des restrictions en matière d'approvisionnement. Je crois pas une seconde avec les contrats aidés. En plus, Macron, il a fait des millions de contrats, des centaines de milliers de contrats aidés. Je crois pas une seconde que les chefs d'entreprise aujourd'hui aient les coups des franges pour augmenter les salaires. Je pense qu'ils donneront des primes pour conserver leurs salariés, c'est vrai, mais une prime, c'est pas un salaire.
Non.
Une prime, c'est ponctuel.
Non.
C'est un peu comme la prime emploi, machin, tous ces trucs-là, c'est pas très sérieux. Donc, faut pas mélanger prime et augmentation des salaires. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important de faire attention aux termes parce que là, aujourd'hui, quand des médias balancent ça, c'est un peu comme, je vais donner un exemple très caricatural. À l'époque, on parlait de thérapie génique. Soi-disant, on pouvait soigner par la thérapie des gènes. Ça n'est jamais arrivé. Ça ne s'est pas produit. Les cancers continuent à proliférer. Donc, c'est pas sérieux de dire ça. C'est des effets d'annonce médiatiques qui ne correspondent pas à la réalité de terrain.
Il y va fort, hein, Gamal Abina. Rudy Kazi, bon, qu'est-ce qu'on dit? Et puis si vous avez un témoignage, vous pouvez nous appeler au 0153 48 3000. Effectivement, est-ce que vous-même, vous avez subi une augmentation, une revalorisation du salaire? Rudy.
De toute façon, on est dans une période compliquée, donc je vois pas... C'est vrai que le chiffre annoncé comme ça, je vous en demandais...
Moi aussi, quand je l'ai vu, franchement.
Il est très étonnant.
Il est très étonnant. Moi, quand j'ai vu le chiffre... Je vous avoue, c'est vrai. Je me suis dit, mais non, pas 65%.
Franchement, à la limite...
On peut parler de 30%. Non, mais surtout qu'en face, comment elle est où la marge de progression, de croissance?
S'il y avait des politiques incitatives... Enfin,
moi je ne suis pas économiste, mais moi, on m'a toujours dit, quand on augmente les salaires, il y a la masse salariale. C'est-à-dire qu'il y a une progression de croissance.
Totalement.
S'il y a une progression de croissance, on peut augmenter les salaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas.
Parce que les chefs d'entreprise suivent la tendance pour effectivement se sentir plus à l'aise pour augmenter les salaires. Le gel des salaires n'est pas de gaieté de cœur pour un entrepreneur. Moi, je pense.
Surtout qu'il n'a pas de visibilité de trésorerie.
Il y a quand même un truc, c'est que dans la mesure où l'État intervient et soutient les entreprises, on l'avait vu à l'époque.
Certaines entreprises, on l'avait vu à l'époque
sous Hollande pour le crédit impôt compétitivité, etc.
Ah oui,
là, effectivement, il y a une incitation, une limite même une obligation pour les entreprises de jouer le jeu.
Ah oui.
Là on n'y était pas. Si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid 19,
quand tu soutiens aux entreprises, crédit impôt, c'est pas un soutien aux entreprises, c'est une baisse de pression, c'est pas pareil.
Oui.
C'est-à-dire que le soutien aux entreprises, c'est des dons d'argent qui ont été faits pendant le Covid.
En plus, voilà.
Absolument. Là, on est dans un accompagnement et un renforcement de la trésorerie. Je fais ça.
Et encore pendant le Covid. C'est un peu différent dans la mesure où on prévoit une baisse d'activité et par rapport au bilan précédent, on fait un calcul sur ce qu'aurait pu être le chiffre d'affaires de l'année en cours. Donc c'est pour maintenir les entreprises à flot. On n'est pas là en train d'injecter.
Sauf que la mission, on est en train d'assister à un vrai turnover. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les salariés, autant avant ils n'hésitaient pas. Aujourd'hui ils n'hésitent plus du tout à quitter l'entreprise aujourd'hui. Hein.
Oui, enfin c'est parce qu'il y a des peurs et puis les salaires sont pas à la hauteur. C'est
oui,
au contraire.
Et puis il y a des secteurs encore porteurs sur lesquels on peut trouver encore
dans le bâtiment particulièrement.
On parle de plus de turnover.
Mais oui, c'est logique.
Une nouvelle technologie.
Parce qu'on est mal payé, c'est pour ça qu'ils partent les gens. Et les employeurs qui veulent garder leurs meilleurs salariés ont tendance à faire les primes, c'est vrai. Mais il y a une chose, d'abord, quand on parle, comme par hasard, quelques jours après les déclarations de Macron qui propose, on l'a discuté la semaine dernière avec un macroniste justement qui disait beaucoup de bêtises et que j'aimerais vraiment rencontrer sur le plateau, qui expliquait que Macron a fait un cadeau en l'augmentant de 2%. Pour la première fois, il a dégelé l'augmentation de 2% par rapport à l'inflation. Sauf que pendant des années, Macron, il a gelé l'augmentation des salaires des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont été, en réalité, ces 2% ne compensent même pas la perte de pouvoir d'achat des 3 années. Et aujourd'hui, 2% ne compensent même pas l'augmentation qu'on est en train d'observer, l'augmentation de l'inflation. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont 2%, c'est même pas un rattrapage. C'est juste une pichenette. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que
sachant même qu'ils sont en retard.
Et oui, ils sont en retard. Ils ont retard déjà sur 3 ans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les faits, quand par exemple ils ont aidé pour le Covid, moi j'ai participé à cette aide, enfin on m'a un peu plus ou moins aidé, on dira, il fallait à chaque fois déclarer le mois correspondant au mois de l'année en question. Il y avait un décalage d'un an. Si on avait fait, je sais pas, 15 000 euros de chiffre d'affaires, ils nous prêtaient effectivement 80% du montant en question. Sauf que ça, c'est des aides pour pas que les entreprises ferment. On n'est pas dans les aides de dynamisation de l'économie. Aujourd'hui, effectivement, je ne peux pas croire que les patrons seraient prêts à augmenter, sauf à suivre l'inflation des 2%, ce qui est logique, enfin de 3%, prêts à augmenter leurs salariés au motif qu'ils voudraient les garder à tout prix. Ce chiffre massif ne correspond pas à des réalités de terrain, malheureusement.
Rudy Casi.
Non, moi je.
Non, je parlais de ce fameux turnover, les salariés. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, le statut du salarié aujourd'hui, hein, parce que il y a la prime. Je vous pose aussi la question. Alors, est-ce qu'on. On a tendance plutôt à se dire plutôt prime, la fameuse prime de Macron, ou plutôt revalorisation des salaires? Qu'est-ce qu'on dit?
Bon, là, vous nous embarquez sur les débats de l'Assemblée nationale. Écoutez, moi, je suis positif à une augmentation des salaires, évidemment. On parle quand même d'une inflation qui est record depuis quoi, une dizaine d'années.
Oui, je veux ça, 30 ans maintenant.
Oui.
Pas quand était les chiffres qui
ressemblent à ça. Depuis 2008. Donc on est sur le niveau le plus haut. Et j'ai l'impression que dans la posture du gouvernement, ça sent pas vraiment l'alerte, quoi. Alors que pourtant, la population en souffre au sortir d'un Covid-19. Les conséquences, on va dire, de ce qui se passe en Ukraine, même si tout n'est pas lié à tout ce qui se passe, c'est
bien
un
sûr.
Argument aussi politique de le dire. Sans compter aussi l'augmentation de la pauvreté en France. Moi, je suis favorable à une augmentation des salaires. Maintenant, ils ont proposé quoi? Une prime d'activité supplémentaire, etc. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de postures politiques là-dedans. La NUPES demande 1500 euros de
SMIC.
Moi, ça me paraît, je veux dire, il n'y a pas
que les gens
qui le demandent.
Ah bon?
Je sais pas, moi, Emmaüs, Petit Frère des Pauvres, etc., au sortir de 2020, ont proposé une augmentation des salaires ou une augmentation du minimum, le salaire minimum d'insertion. Donc, moi, je vois pas où est le problème, visiblement. Maintenant, c'est vrai que c'est une mesure qui coûte cher. Bah écoutez, je vais dire, dans le quoi qu'il en coûte, on a déboursé beaucoup d'argent. Et on sait que c'est de l'argent qui va aller directement dans la consommation. Donc c'est quelque chose qui va ajouter à la consommation et donc du coup faire tourner l'économie. Je vois pas où est le problème.
Maintenant, je vois le problème, mais on pourra en discuter.
Ouais, mais maintenant, moi, là où je vois moi plutôt un problème, c'est la posture politique qui vise à dire non, nous, notre projet est le mieux, donc c'est mieux pour les Français, etc. Donc je pense qu'il faut sortir de la posture politique, peut-être augmenter les salaires les plus bas et faire des primes d'activité.
Moi, je vois le problème. Alors,
pour les salaires moyens.
Moi, je trouve que c'est très électoraliste et très démagogique de dire c'est pas pour toi, ça, c'est par rapport à cette politique.
Sachant que c'est que la droite a voté pour la prime d'activité que.
Oui, exact. Ça s'appelle des mesures démagogiques. Si on est un peu sérieux, et malheureusement, on n'a pas des politiques sérieuses, on a du dogmatisme de gauche qui est stupide. Passer à 1 500 euros, ça veut dire que on obligerait les chefs d'entreprise privés à arriver à ces standards, ce qui veut dire que du jour au lendemain, ils iraient délocaliser, ils partiraient parce que les salaires seraient trop élevés. Je suis effectivement pour une revalorisation des moyens de consommation, mais c'est pas en augmentant les salaires, ça c'est une stupidité, ça fait participer à l'inflation. Il faut réduire les coûts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas les coûts des entreprises. Hein. Il faut réduire les coûts de l'allocation des logements, par exemple. Il faut imposer une division par deux du coût de l'allocation. Il faut bloquer les prix. Il faut
par deux, c'est énorme. Hein.
Non, c'est pas énorme. Ça, c'est la logique capitaliste qui dit non, mais c'est pas normal, on n'a pas touché ça. La dernière fois, on avait parlé avec le macroniste qui disait vous êtes d'extrême gauche. Non, De Gaulle n'est pas d'extrême gauche et pourtant, quand il sort de la guerre, il impose le blocage des prix. Et c'est normal. Il faut un contrôle des prix. Il faut faire en sorte que le capital.
Alors pourquoi on ne le fait pas alors?
Parce que ce sont des lâches. Le mot est simple. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans le parc
public. Posez les mots.
Oui, le parc public, si on divise par deux le prix d'un loyer, ça libère d'autant plus du pouvoir d'achat et ça n'handicape pas les entreprises. On reste compétitif, on augmente les moyens des gens qui payent moins cher le loyer et donc plus de pouvoir. Non, mais aux entreprises, on n'a pas de choses d'entreprise aujourd'hui. Il faut dire quoi? Je parle des bailleurs publics. Hein. Ceux-là, il n'y a aucune raison qu'ils aient des loyers élevés comme en Angleterre. C'est intolérable. Donc c'est pour ça. Si on a un peu de courage politique, on fait ça. Ensuite, il faut contrôler les prix. C'est M. Leclerc, qui n'est pas le dernier des capitalistes quand même, qui dit quoi? Il dit une chose. Il dit aujourd'hui, il y a une spéculation à la hausse et il faut faire des enquêtes. Il a demandé des enquêtes contre ça.
Une commission spéciale.
Michel-Édouard Leclerc dit ça, c'est que réellement, il y a un problème qui doit être posé sur la table. Et si on est un peu honnête et si on a à cœur, comme moi, que les pauvres vivent moins pauvres, eh bien, il faut réduire leur coût de vie. C'est tout.
Moi, je serais pour une augmentation du SMIC.
Êtes un peu comme la NUPES, 1500 euros.
Oui, d'accord, mais uniquement là, on est pour les personnes en difficulté sur le plan économique, mais pour les personnes qui ont un salaire plutôt acceptable, qui font partie de la classe moyenne, etc. Peut-être aller plus
les
vers des primes. Voilà, ou même pas forcément les cadres, les employés moyenne, techniques, etc. Partir effectivement plus sur des primes d'activité, au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais par contre, une augmentation du SMIC, moi, ça me paraît plutôt cohérent. Ça me paraît plutôt cohérent par rapport... Parce que c'est vrai aussi, on le disait, la question de l'inflation, c'est pas uniquement l'augmentation des prix. Mmh. C'est aussi...
L'augmentation des salaires.
C'est aussi une question d'augmentation des salaires, mais c'est aussi une question aussi de décision politique, effectivement, du blocage des prix, mais surtout que l'État ne fasse pas le choix uniquement d'aller taxer les entreprises par rapport à l'inflation. Parce que c'est ça aussi l'objectif dans l'inflation, il y a les prix qui augmentent, certes.
Il y a deux types d'inflation, soit par les salaires, soit par les prix.
Voilà, mais derrière ça aussi, il y a la taxation de l'État qui continue sur les entreprises.
Mais ça participe pas à l'inflation.
Sur les prix.
On voit bien que le débat, effectivement, il faut le pousser encore plus loin pour aller effectivement concernant on comprend mieux. Évidemment, toutes ces heures passées au sein de l'hémicycle. Il est 19h30, je vais juste lancer le Quad 9 et on se retrouve tout de suite après. Le Quad 9, c'est parti tout de suite.
Les informés, le Quad 9.
Et c'est la dernière de la saison concernant donc le Quad 9. Le Quad 9, comme chaque mercredi, avec le docteur Majid Seoussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, aussi au SAMU, mais elle est également aussi à l'hôpital aux invalides militaires, chez les militaires. Merci d'être avec nous. Comment ça va d'ailleurs? Vous allez bien? Vous vous portez bien?
Bah écoutez, quand on est en vacances, on se porte toujours plutôt bien. Hein.
Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Alors, votre billet d'humeur tourne aujourd'hui, ce soir, autour de la canicule des incendies des vacances. Bref, je vous laisse, on vous écoute, comme fidèle à votre écriture. C'est parti.
Bah écoutez, mon cher Adil, je suis très embêté.
Ah.
J'ai une sorte de dilemme digne de Crime et Châtiment. Mmh. Et je vais vous poser une question.
Oui.
Si vous connaissiez un secret horrible, Est-ce que vous dénonceriez le coupable, même si c'était un ami?
Ça dépend pour
ça sent le Bombardier, ça.
Ah, c'est vrai, ça, il a raison, c'est vrai. Un piège, je ne réponds pas au piège.
Bon, en tout cas, Adil, j'ai quand même une question à vous poser. Que faisiez-vous en Gironde la semaine dernière avec un bilan d'essence et des allumettes?
Eh, on le voyait arriver quand même. Hein.
On l'a senti,
on vous voyait arriver hein, quand même. Hein.
Je sais que vous êtes furieux contre votre copain Macron, qui vous a encore fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Vous avez été ulcéré cette année encore de ne pas voir votre nom figurer sur la liste de la Légion d'honneur.
Ah là là, c'est dur.
Mais après tout, vous n'aviez qu'à pas faire toutes ces émissions sur Uber. Pourtant, vous...
Clochette, il mérite une clochette. Il est fort, notre docteur.
Pourtant, d'habitude, mon cher Adil, vous n'embrasez pas que les pistes de danse et les cœurs des jeunes femmes romantiques, mais peut-être avez-vous été inspiré par les réussites de ces pompiers pyromanes, tels que la députée et les filles Panot, qui associent dans une bouillie qu'on a du mal à avaler Pétain, le président Macron et les 89 députés RN.
Ou
encore par ceux qui, pour la plupart de bonne foi, signent une tribune pour demander le limogeage de ministres supposés homophobes, Christophe Béchu, Darmanin, pour leur opposition au mariage pour tous, et surtout Caroline Cayeux, qui était certes opposée au mariage pour tous, mais aurait surtout dû apprendre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Ouais.
Il fait chaud. Et visiblement, le sujet de la semaine, c'est bien la canicule. Des températures jamais vues. Un 42 degrés en Bretagne, en me promenant lundi à Saint-Malo, je croyais que je marchais à Tizi Ouzou, tant le vent était sec et chaud. Je vous rassure, je me suis réancré dans le réel en mangeant un kouign-amann au beurre salé et pas fait à l'huile d'olive. Et je voulais en profiter à l'occasion de cet épisode caniculaire pour rassurer nos amis d'extrême droite, de Reconquête, du RN et d'ailleurs, car désormais j'y vois plus clair. Le grand remplacement est une volonté divine. La France, dans 20 ans, aura un climat africain et c'est pourquoi il faut installer rapidement une population adaptée. Eric, le grand remplacement est une nécessité désormais à cause du changement climatique.
On s'est posé
c'est
la
un
question.
Acte de santé publique.
C'est ça, exactement. On s'est posé la question.
Et d'ailleurs, je vais de ce pas contacter quelques députés que je connais pour faire porter un projet de loi ouvrant massivement au sud des frontières et organisant le départ vers des terres plus clémentes pour nos compatriotes dont le phénotype ne sera plus adapté au futur climat français. Qu'est-ce que vous en pensez, Adil?
Oui, très bonne idée. Je vous suis.
Je voudrais d'ailleurs que vous proposiez à notre président la constitution d'un ministère de la transition démographique. Car voyez-vous, Adil, plus que jamais gouverner, c'est prévoir.
C'est ça.
Et c'est d'ailleurs bien ce que fait notre président, qui nous a gentiment annoncé d'une manière enrobée, je dois dire que l'on devrait se préparer à l'automne, quand la bise viendra, à se geler un peu dès le moment où l'ogre Poutine aura fermé les robinets du gaz, alors que nos centrales nucléaires ne semblent pas très vaillantes, la moitié du parc est à l'arrêt, et que le chantier de l'EPR de Flamanville n'a après tout que 11 années de retard.
Ouais.
En conséquence, mon cher Adil, plutôt que de passer l'été à exhiber vos tablettes de chocolat et le reste devant les cabines de douche de la plage à Marbella,
pas du tout d'ailleurs, tout faux, mais bon,
je vous recommande de vous inscrire à l'atelier tricot organisé par Bergère de France, cette enseigne qui va connaître une seconde jeunesse, car il va falloir s'apprêter à sortir la petite laine. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, surtout à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir. Et je vous laisse méditer sur cette phrase de Thème. On voyage, non pour changer de lieu, mais d'idée.
Bravo. Bravo mon cher docteur Majid Soussine. Je vois que les vacances, vous réussit toujours comme ça, hein, je vois.
Écoutez, les vacances, ça fait toujours du bien à tout le monde. Hein, ça, on va pas raconter des histoires. Hein.
Bah, prenez soin de vous, cher ami.
Vous aussi, mon cher.
Docteur Majid Soussine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, puisque vous savez que c'était la dernière de la saison. On vous retrouve, si tout va bien, à la rentrée. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à nos auditeurs?
Bah écoutez, je vais dire à ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter, de passer de bonnes vacances, de ne pas faire de bêtises, de faire attention sur les routes, et puis de prendre des forces, parce que j'ai quand même un peu peur que l'automne soit difficile, mais pour l'instant, il ne faut pas y penser. Ouais. Et j'ai une petite pensée comme à chaque été, pour tous ceux, les 53% de Français qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et je salue des organisations comme le Secours Populaire ou le Secours Catholique qui font de leur mieux, comme certaines municipalités, pour agrémenter l'été.
Absolument, et merci de le rappeler, vous avez bien raison. Prenez soin de vous, un bel été à vous, bonnes vacances, mon cher docteur Majid Soussine. Et on se retrouve, si tout va bien, à la rentrée.
Tout à fait.
19h36, on va marquer la dernière page pub et on se retrouve tout de suite après pour parler justement, vous savez, eh bien, de cette fameuse... Alors, j'ai envie de revenir sur cette question. En pleine campagne présidentielle, on a parlé de cette nouvelle prime. Vous vous souvenez ou pas? Vous vous en rappelez?
Oui.
Bon, bref.
Ça veut plus.
Qu'est-ce qu'elle est devenue? Et ensuite, après, on parlera du Casemour. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h40, 19h39 précisément, avec Rudy Kazi Gamal Abina. Alors, lors, vous savez, de la dernière campagne présidentielle, la CAF se sont, en tout cas, ils se sont intéressés pour dire qu'on revalorise cette fameuse prime d'activité. Ça veut dire quoi cette histoire-là, pour que nos auditeurs comprennent un peu quand même? J'avais envie de revenir sur ce sujet parce que, bon, le gouvernement Borne, il a comme préoccupation première le pouvoir d'achat. Très bien, on est en plein dedans. Mais on avait dit, souvenez-vous, qu'il fallait améliorer les fins de mois des Français. On en est où, ça, pour les 1,3 million de bénéficiaires supplémentaires d'Amal Abina?
J'ai écouté le discours de Borne, qui est un discours très offensif sur les questions sociales. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Mais bon, quand elle dit qu'il faut que le RSS6 travaille absolument parce qu'ils doivent être rentables à la société, quand elle dit qu'on doit les encourager des primes, tous ces trucs-là...
On parle même du RSA, là.
Oui, le RSA.
Oui, absolument. Oui,
c'est pour ça que je fais référence à ça. Elle est dans une double posture. Elle a essayé d'avoir un discours de gauche parce que c'est une femme qui est issue de la gauche. Et en même temps, elle essaie d'avoir un discours un peu plus ou moins libéral dirigé pour séduire la droite. Donc c'est quelqu'un qui fait le grand écart dans son discours d'introduction. Par exemple, quand elle parle de nationalisation d'EDF, c'est pas une nationalisation, c'est une reprise de contrôle des 15% qui restaient. Mais c'est une façon de dire qu'on fait un peu de la gauche à la Mitterrand.
Mais est-ce que c'est pas du saupoudrage, tout ça?
C'est tout ça. Franchement, je vais être sincère.
Oui.
Vu l'état des comptes généraux de l'État, je ne crois en rien à ces propositions, elles ne tiennent pas la route. Parce que d'un côté, on parle que de dépenses alors qu'on n'a pas les moyens. Et le côté, on veut pousser les gens à travailler.
Mais je sais pas, j'ai entendu dire que l'État comptait investir 8 milliards.
Non, il compte investir plein de trucs. Bon. Non, mais été,
pour
l'échec de M. Macron est de 5 années. Il voulait faire Startup Nation, ça n'a pas fonctionné, à part son truc qu'il a fait dans le 12e, là, mais c'est pas très sérieux. Donc, pour tout dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays en panne, comme la plupart des pays occidentaux, c'est pas Macron.
Donc, les Français vont rien recevoir sur leur compte bancaire?
Ils vont recevoir une petite prime pour la déco, mais ça va pas bien loin.
Pour la déco, ça, j'aime bien, clochette. Non, mais c'est marrant, ce gamin. Pour la déco, tiens, allez, pour la petite déco.
Quand on va faire ses courses 100 euros et qu'on paye 120 euros maintenant en plein moyen,
les auditeurs nous
vendent. Même s'ils reçoivent 100 euros, ça couvre un mois, c'est tout.
Ça, c'est vrai.
Comme pour l'histoire l'essence, maintenant, là, 2 euros.
Ça va, vous avez raison.
C'est monstrueux comme augmentation. Tous les prix augmentent.
12 euros ou 2 euros?
2 euros le
litre.
Mais je veux dire, le
2 euros, c'est énorme.
Ils avaient fait un petit cadeau de 15 centimes, mais c'est pas sérieux. Aujourd'hui, le seul moyen pour s'en sortir, c'est soit relancer l'économie de façon très puissante, mais pas seulement intra-française. Moi, je pense qu'il faut élargir la voilure avec les pays du Sud, la Méditerranée, simplement. Ou soit, simplement, s'ils continuent à s'enfermer, ils vont continuer à reculer, ils vont perdre des parts de marché, ils vont se désindustrialiser. Par exemple, ils avaient fait une politique incitative de relocalisation des entreprises qui étaient parties à l'étranger. On n'a pas vu le bilan. On ne connaît pas le bilan. A priori, ce n'est pas une réussite. Et malheureusement, ce n'est pas une réussite, alors que ça pourrait créer de l'emploi et augmenter l'assiette fiscale, c'est-à-dire les capacités à l'État de générer de l'impôt. Aujourd'hui, ça ne peut faire ça. Il parle de beaucoup de dépenses, d'accompagnement, d'incitation, mais dans les faits, avec en plus cette crise ukrainienne qui aggrave la situation, avec l'énergie qui coûte de plus en plus cher, eh bien, il nous annonce qu'on va devoir se chauffer à 10-12 degrés. Ça dit beaucoup de choses, ça. Il faut se poser des questions. L'Allemagne a déjà montré la voie. Ils annoncent du chauffage entre 0 et 10 degrés. Donc vraiment, vraiment, je pense qu'on peut s'inquiéter. Après, l'optimisme, je vais en avoir quand même. Je le dis pour les copains de RT France, la Suisse a réouvert la possibilité de diffuser RT France sur les ondes. La Suisse est le premier pays à avoir fait ce travail-là. L'Europe est en train de dire, on va négocier avec les Russes parce que leurs sanctions n'ont rien donné, ça les a impactés eux et pas les Russes. On va négocier parce qu'on sait que la guerre est perdue. On comprend parfaitement que Mariupol, toutes les villes du Sud seront prises par les Russes et on va trouver un modus.
Bah, ça y est, c'est contrôlé par les Russes, là.
Totalement. C'est pour ça que.
Donbass, Mariupol.
L'Est et le Sud. Bon. Donc, ça va être acté, c'est réglé, c'est la dernière guerre en Europe, on l'espère. Et ils vont devoir discuter avec les Russes. On ne peut pas faire sans les Russes aujourd'hui. les économies sont intégrées, le monde est intégré, il y a une énergie qui est une quantité bien définie, qui est limitée. Donc on peut
sauf que Biden, il n'est pas d'accord avec vous.
Mais Biden, il dit n'importe quoi, c'est un clown. Il faut être très sérieux.
C'est un clown.
Le président américain,
le président des États-Unis,
ne s'intéresse qu'à l'argent clown, de l'Amérique.
C'est du gamel tout craché.
Non, mais c'est pas sérieux, ce monsieur. Quand il va expliquer, il va au Moyen-Orient, il revient les mains vides, c'est un échec total. Il voulait convaincre Ben Salman d'augmenter ses approvisionnements en pétrole pour casser les Russes, ça n'a pas marché. Ben Salman, il roule pour sa bosse. Aujourd'hui, le monde est divisé en deux. Il y a l'Occident et le bloc de l'Est reconstitué, que j'appelle la Chine, la Russie, l'Iran qui va rentrer.
L'Iran, la Turquie.
L'Inde, le principal allié américain dans la région, a rallié des Russes.
Ouais.
C'est pour dire, donc aujourd'hui, on n'est plus dans une configuration où l'Occident peut faire sa loi. Il faut négocier et ils vont négocier.
Eh bien, bon, il en dit des choses, Gamal Abidine.
Oui, bon.
Redis quasi.
S'éloigne un petit peu du sujet, là.
Non, je crois qu'on est dedans, C'est. En fait, voilà, c'est.
Dans le contexte général, je veux dire.
Dans le contexte général, c'est ça.
Mais du coup, moi, je ne sais plus c'est quoi la question, là.
On parlait de cette prime, souvenez-vous. La prime. La nouvelle prime. Redis quasi, vous suivez ou vous êtes avec nous ou pas?
Moi, je suis avec vous, mais quand on fait des pérégrinations. Qui nous emmène jusqu'aux Indes.
Bah c'est ça la géopolitique. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Moi je suis perdu. Il faut me ramener sur le chemin.
Revenez parmi nous, mon cher Rudy Kézi.
Merci de m'avoir emmené sur la route de la soie. J'ai bien voyagé.
Revenez.
Non, écoutez, sur les primes, on a tout entendu, que ce soit pendant la campagne présidentielle. Rappelez-vous, il y avait une fameuse prime que le président avait proposée de 6 000 euros. Vous en rappelez ou pas?
Ça s'appelle la prime Macron.
Ouais, la prime Macron. Elle est proposée 6 000 euros.
6 000 euros, elle existe toujours, il en a parlé il y a quelques semaines encore.
En avril, elle avait commencé à en parler et dès cet été, soi-disant, elle était censée être.
Mais pour qui?
En place.
Pour les salariés?
Pour les salariés.
6 000 euros smicard.
Les petits salaires.
Je crois pas.
Si.
Oh là, le pipo,
prime annuel.
Énorme comme pipo. Ouais, 100 euros, je comprends.
Ah ben, je déconne pas, vraiment.
Il a dit.
Il y a encore quelques jours, il en a parlé.
Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant. C'est ça un peu le souci, c'est qu'on est passé sur une société d'argent magique. Rappelez-vous l'année dernière,
il
était allé à Marseille, l'argent qu'il avait proposé pour remettre après le Grenelle qu'on avait fait pour la sécurité, il a continué dans ce sens. Mmh. Donc effectivement, on n'a plus une politique qui est basée sur une vraie stratégie économique, avec pour objectif de réindustrialiser, etc. Et c'est un peu à contre-courant de ce qui existe aujourd'hui. Je le dis souvent, moi je pense que capitalisme c'est pas particulièrement une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut lui donner de la conscience.
C'est ouais. Quel capitalisme?
Oui, voilà. Mais, il faut donner au capitalisme de la conscience, il faut donner au capitalisme de la limite. Et il est vrai.
Je vais te charrier un petit peu, ça te dérange pas?
Allez-y. Il y a la clochette qui est là.
Il faut humaniser la peine de mort. Hein, c'est ce que t'entends.
Oh, papa, double clochette.
C'est vraiment une vanne. Non, mais après, si on regarde à l'échelle des siècles, bon, voilà, on a eu cette opposition entre le capitalisme et le communisme. Le communisme est tombé parce que c'était une vraie folie. Mais c'est pas pour autant que le capitalisme, du coup, c'est devenu quelque chose de parfait. Et le problème, c'est que lorsqu'on a une vision très capitaliste de la société, oui, mais après, moi, j'ai mon vécu, mes expériences personnelles. Lorsqu'on a une vision trop capitaliste de la société, ben, malheureusement, on favorise quand même plus un certain milieu plutôt qu'un autre. Alors quand même que je rappelle que ce qui fait la valeur d'une nation, c'est les travailleurs.
Bien sûr.
C'est comment on appelle ça?
Le voilà marxiste, il est où Jimmy Dalidou? Sort de ce corps. C'est Jimmy Dalidou là, j'ai l'impression d'entendre Jimmy Dalidou là.
Il y a pas que ça, c'est les PME qui font le dynamisme d'une économie, d'une marché, société. Donc voilà. Donc moi je pense que on est quand même avec un président qui a une vision très capitaliste de la société. Mmh. Et je pense que lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop. Le président avait promis en décembre 2017 qu'en 2018, il n'y aurait plus un SDF dans la rue.
Blague du siècle. Vous
voyez un peu, c'est-à-dire en fait, où est notre force en fait? Où est notre puissance? Si on n'est pas en capacité déjà, on est en capacité de faire des promesses qu'on ne tient pas.
Mais moi j'ai une question à poser.
Et si on est en incapacité,
quelle est votre question,
d'avoir une vision économique, alors que pourtant on se dit proche, on se dit pour la start-up nation, etc. Finalement c'est des effets d'annonce. Je m'en fiche, je suis pas là pour taper sur Macron en particulier. Je parle en tant que Français, je parle en tant qu'élu, je parle en tant que citoyen du monde. Je regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, etc. Et le déclassement de la France procède de ce manque de vision, parfois de ce manque de courage. Et à un moment donné, socialiste, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu tout un tas de choses qui, et aussi, finalement, on l'a vu pendant les élections, c'est cette réaction-là qu'on a vu vis-à-vis de Macron, ou surtout même pour les élections législatives. À un moment donné, il faut pas jouer avec le feu. Donc, on a besoin d'une
vision économique. Quelle est votre question?
De Gaulle tout à l'heure. Mais il en avait une. Est-ce qu'il faut que la France soit choquée par une guerre, soit choquée par des crises qui nous ramènent à une certaine humanité pour que d'un coup on commence à regarder sur 20-30 ans?
Ben moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que.
Quelle est votre question?
Je pense simplement, c'est intéressant. On parle de capitalisme, il y a plusieurs capitalismes. Il y a le capitalisme financiarisé américain ultra spéculatif de la bourse, clairement. Donc ça, c'est la pire des choses, c'est une bête sauvage. Après, il y a un capitalisme plutôt européen, de famille, de travail, d'industriel. Ça, c'est un capitalisme un peu plus humain et éthique, parce qu'ils font
avec des valeurs, vous voulez dire.
Ça, c'était le 19e siècle.
Enfin, non, c'est pas tard. Si c'est le 19e siècle, tu me parles à la famille Mugnaise, Leclerc, on peut, je t'en mets des kilomètres, des capitalistes de famille.
Mais justement, Arnaud,
qui n'ouvrent pas leur capital au marché financier. C'est ça que je veux dire.
C'est l'héritage du 19e siècle.
Oui, mais
aujourd'hui, on est bouffé par la vision américaine.
Non, du tout, c'est pareil. En France, non, ils sont très conservateurs là-dessus. Franchement, la famille Mugnaise, personne ne la connaît. Elle tient quasiment
les châteaux
en général. Elle tient le Auchan. Voilà, c'est quand même des groupes qui sont hyper puissants.
Ils sont pas nombreux.
Ils sont nombreux. Tu rigoles? Bah, on va te renseigner.
Je t'incite d'un point de vue politique.
Je te dis, je t'incite. Je t'invite à acheter Challenge, les 500 premières fortunes. Tu verras, ils sont pas nombreux.
Je suis abonné aux Échos, t'inquiète.
Non, Challenge, t'as le classement des 500 fortunes, tu verras, c'est
édifiant. Bah, il a pas tort parce qu'il y a quand même de nombreuses familles, quand même, aujourd'hui,
qui sont la France.
Avec ses valeurs. De droite, tradition,
et
qui tiennent encore qui sont au CAC 40 et qui tiennent encore le pays.
Je les connais, mais c'est pas eux qui donnent en fait le ton de l'orientation politique et économique du pays. Moi là-dessus, je parle
sûr,
de Emmanuel Macron.
Mais juste pour dire la question qui se pose,
c'est Emmanuel Macron, c'est à lui, c'est de lui dont on attend une vision. Emmanuel Macron a été. Pas du président une vision économique.
Emmanuel Macron
est lui qui donne le ton.
Non, il donne pas le ton.
Non, il donne pas le ton.
Il donne une orientation.
Emmanuel Macron, plutôt.
Je parlais de capitalisme. Moi, j'attends du président.
Le capitalisme de Macron aujourd'hui, c'est la Bretagne.
C'est le lobby capitaliste qui donne le ton.
Le capitalisme de Macron, c'est la Bretagne. La plupart des gens qui sont autour de lui sont soit normands, alsaciens ou bretons. Donc c'est ceux qui font l'industrie. Le capitalisme de Macron est orienté sur un capitalisme familial. C'est pas un capitalisme ouvert contrairement aux États-Unis. Mais au-delà de ça, la question que je voulais poser importante, c'est.
Il s'ouvre de plus en plus. Hein. Attention, non, ça s'américanise.
Non, c'est très peu. Sincèrement, ça paraît.
Ça s'américanise quand même.
Non, très peu.
Ah, excuse-moi, Gamal Abina.
Il faut s'intéresser au marché financier pour se rendre compte que c'est très mis.
Bah, regardez cette nouvelle génération aujourd'hui.
Non, du tout.
D'hommes d'affaires. Mais ils sont à l'américaine.
Les hommes d'affaires ne rentrent pas dans le marché action.
Non, mais énormément.
Je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher Gamal Abina. Regardez cette jeune génération qui sont dans le CAC 40 en France et qui sont complètement dans la matrice à l'américaine.
Ça, c'est les start-upers.
Justement, il est.
Ah, c'est les start-upers, on parle d'eux.
Il est très en lien.
Je vais donner les entrées concrètes.
Bien sûr. Il est avec eux.
Elle n'existe pas, la Source 5 Nation.
Il n'y a pas que.
Xavier Niel, pour prendre un exemple.
Bah, tiens, j'allais parler de lui en plus. Vous me l'avez volé de la bouche. Je vous promets. Je pensais à lui.
Il a fait quoi? J'ai raison. Lunettes pour tous. C'est un petit bordelais qui a eu cette idée-là de faire des lunettes pour tous, pas cher, faites sur place en un quart d'heure. Quel est le capitaliste qui l'a soutenu? C'est Niel. Niel, il a un capitalisme fermé. C'est ça le capitalisme français. Les gros capitalistes français, c'est ça. Maintenant, pour faire juste une question très importante. Et là, on parle d'éthique. Moi, ce qui me choque dans ce monde actuel, c'est que, par exemple, des Bolloré, des Pinault, tous ces grands milliardaires aujourd'hui français qui sont enrichis. Les grands patrons qui se sont enrichis. Les Bouygues et autres.
Moi, j'aurais dit des industriels. Mais
des industriels.
Des industriels.
Du luxe et du commerce. Ces gens se sont enrichis de façon extraordinaire. Je trouve inadmissible. Je ne veux même pas parler des Américains avec toutes ces Bezos et autres. Inadmissible qu'il n'y ait pas un plafond de richesse par personne.
C'est-à-dire ça, c'est vrai.
Il arrive à un seuil où quand même, ces types-là ont une richesse, il faudrait 10 000 ans pour la dépenser, et ils la gardent pour eux. Ça, c'est pas normal. On a un problème avec ça.
Je suis d'accord avec ça. Et ça procéderait d'un intérêt national plutôt.
Mais pour que ça bouge, qui doit le faire?
Quand il y avait la.
Eh ben, l'État.
Vous savez, quand Notre-Dame
avait brûlé. Ils n'ont pas le courage de le faire.
Vous savez, quand Notre-Dame avait brûlé, ça avait suscité des élans de compassion, etc. Et Emmaüs, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait un recul des dons de plusieurs millions d'euros. Absolument. Donc, ça nous dit beaucoup sur l'hypocrisie, malheureusement, des grands patrons qui, d'un point de vue démagogique, sont capables de sortir de l'argent, mais qui sont énormément dans l'optimisation fiscale, si ce n'est
absolument,
pas pour dire dans
traduit quand même, optimisation fiscale, c'est que quand ils donnent, ils bénéficient d'une réduction d'impôts.
C'est ça. Et c'est là où, en fait, on perd la conscience de ce que le capitalisme a pu être comme un espoir. À l'époque,
je sais pas si c'est un espoir, mais
à la différence du communisme. Là, pour moi, on s'est totalement éloigné de la chose. Bon, maintenant,
messieurs,
il faut quand même rappeler, et je finirai là-dessus, il faut quand même rappeler que les patrons dont tu parlais sont
rapidement,
aussi des patrons
s'il vous
de
plaît.
Chaîne. C'est aussi des patrons.
C'est aussi des patrons de chaîne.
On parle absolument. Beaucoup. Bah,
tient
de,
le pouvoir,
métier,
le pouvoir.
On tient beaucoup du métier des influenceurs aujourd'hui. Les plus grands influenceurs, c'est quand même les patrons de chaîne. Et ils ont une capacité à pouvoir maintenir leurs acquis au travers de cette influence-là. Oui, et c'est ça qui est injuste aussi, parce que du coup, derrière, on ne retrouve pas l'intérêt de la population, parce que...
Mais plutôt les intérêts des industriels.
Bien sûr,
allez, je dois rendre l'antenne.
Des intérêts qui se trouvent aussi à l'étranger.
Je rends l'antenne. Merci, Rudy Casi.
On va regretter Zemmour, il n'a pas pu être exprimé.
On n'a pas pu, non, mais c'est vrai, on n'a pas pu parler de Zemmour. Bon, je serai pour une prochaine. Bonsoir, Bilal Nenman.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les auditeurs.
Comment ça va? Quelques jours d'ailleurs de la dernière de la saison.
C'est
un peu comme moi d'ailleurs, comme les informés.
Ouais, c'est ça. Bah, tout comme les informés.
Alors.
On finit cette semaine, vendredi soir.
On fait tout pareil.
Et nous, on parle beaucoup de la Grande Boucle, du Tour de France, sans oublier le Mercato. Estival.
Ah.
On
a
encore,
on a encore
jusqu'au 31 août. Et on va parler aussi de la pré-saison avec le PSG.
Le championnat
n'est pas
démarré,
non? Non, le championnat n'a pas démarré.
Il démarre début août.
Début août. Et là, le PSG l'a emporté sur une petite victoire par l'intermédiaire de Léo Messi au Japon. Après, on va parler aussi de la rumeur CR7 Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille.
Non, et c'est aussi, une rumeur, ça.
Et aussi.
Arrête, monsieur le pro Marseille, là.
Et le Barça qui veut nous faire avec le Real.
C'est un Marseillais qui parle.
Ah là là, Marseille, tout de suite, les Marseillais, ils ont tendance à en faire. Bilal Nenman. 20h21h. Merci à Gamal Abina. Bel été
à vous aussi.
On se retrouve à la rentrée.
Avec plaisir.
Prenez soin de vous. Hein.
À vous aussi.
Bel été aussi.
Merci.
On se retrouve à la rentrée.
Ouais.
Bravo messieurs, prenez soin de vous. À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien, messieurs. Ciao ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.